L'habitat social en Occitanie, dans une situation tendue, vous en parlez ce matin Isabelle Duchet avec votre invitée.
Entre une demande de logements sociaux qui explose en Occitanie, il y a 215 000 demandeurs aujourd'hui. Et les difficultés à en construire de nouveau, l'habitat social est un secteur en tension. Mais quelques lueurs d'espoir permettent quand même d'envisager l'avenir plus sereinement. Nous faisons le point ce matin avec Jean-Michel Fabre, président d'Habitat Social en Occitanie. Jean-Michel Fabre, bonjour.
Bonjour.
L'habitat social doit répondre à sa mission première d'accès au logement des plus précaires, qu'ils soient actifs, étudiants ou seniors. J'aimerais bien que nous commencions cet entretien par préciser qui sont ces bénéficiaires.
Alors, on le dit beaucoup, le logement social loge l'Occitanie telle qu'elle est, loge la Haute-Garonne telle qu'elle est, loge l'Ariège telle qu'elle est. C'est-à-dire qu'on loge tous les gens qui en ont besoin. 70% des Français, et c'est vrai en Occitanie, ont potentiellement accès au logement social. Et donc, ça veut dire qu'on loge des salariés, ces fameux travailleurs de première ligne dont on a beaucoup parlé pendant le Covid. C'est nous qui les logeons. On loge aussi des seniors. Et dans le parc social, il y a certains départements où 20 voire 25% des gens logés ont plus de 65 ans. On loge les jeunes, beaucoup des jeunes qui sont dans des cités étudiantes ou dans du logement social passent par là. Et d'ailleurs, quand on demande aux Français, quand on regarde un petit peu, la moitié des Français, un jour ou l'autre, sont passés dans du logement social, parfois sans le savoir. Et puis, on loge aussi les personnes les plus en difficulté. C'est notre rôle historique, loger les salariés, loger les ouvriers à l'époque, loger les gens en difficulté. Et dans les gens en difficulté, il y a les gens qui sont dans des structures d'accueil, d'hébergement, parce qu'elles étaient à la rue. Et nous, on prend le relais pour leur proposer un vrai toit. Et puis, il y a des situations très difficiles. Et je pense que, par exemple, la question des femmes victimes de violences est une question très importante.
Alors, j'allais y venir parce que depuis la loi Égalité et Citoyenneté de janvier 2017, les personnes sortant d'hébergement sont prioritaires pour l'accès au parc social. Ce sont à 68% des personnes seules. Et il y a aussi ce sujet des victimes, des femmes victimes de violences qui sont prioritaires aujourd'hui. Comment répondez-vous précisément à cette demande ?
Alors depuis plusieurs années, en particulier sur ce territoire, on a fait un très gros travail avec les autorités, avec la justice, avec la police, la gendarmerie, avec toutes les structures d'hébergement pour qu'on facilite l'accès au logement social des femmes victimes de violences. Sur la Haute-Garonne, en 2 ans, on a permis à plus de 500 femmes d'avoir accès à un logement social. Alors c'est un chiffre terrible qui me tétanise toujours parce que je me dis mais c'est pas possible cette violence qu'on a dans nos sociétés. Mais d'un autre côté, c'est grâce à la mobilisation collective qu'on permet à ces personnes, parfois pas directement parce qu'elles passent par une structure d'hébergement, mais après d'avoir accès au logement social, ce qui est très souvent nécessaire pour se reconstruire et se reconstruire dans la durée. Donc c'est bien une mobilisation collective. On a simplifié des démarches. Avant, il fallait avoir l'attestation de dépôt de plainte, il fallait avoir plein de choses. Aujourd'hui, grâce au travail avec les associations, avec la justice, avec la police, avec tout le monde, on facilite les choses pour qu'on puisse les mettre à l'abri. Et beaucoup de gens qui habitent dans des logements sociaux ne le savent pas, mais dans des cages d'escalier, il y a des personnes qu'on a sorties de ces difficultés.
Toute population confondue, comment vous envisagez, Jean-Michel Fabre, l'avenir du logement social dans notre région ?
Alors, déjà le présent, on est sur un territoire, on a beaucoup construit ces dernières années, mais où il y a eu un ralentissement de la construction. Il y a eu une augmentation de la demande. Si je prends la Haute-Garonne, il y a encore 2 ans, il y avait 50 000 demandeurs. Aujourd'hui, on est à 60 000 demandeurs. Donc, on a une vraie explosion du logement social. Et donc, l'avenir, il nous faut construire plus, construire beaucoup plus, parce que les besoins sont là, et les besoins de toute nature, comme je l'ai dit tout à l'heure. Construire de manière différenciée. Il faut par exemple beaucoup plus de logements pour les seniors, et il ne faut pas perdre de vue que nous avons aussi à réhabiliter nos logements, à les améliorer, parce que c'est un sujet très très important.
Et oui, avec les passoires thermiques. Donc beaucoup de demandeurs, vous le disiez, plus de 200 000 pour 2024. Combien trouvent aujourd'hui un logement qui correspond à leurs attentes ?
Ah ben, on est dans des ratios qui dépendent des départements, mais en gros, c'est chaque année, c'est une personne sur cinq, une personne sur sept qui trouve un logement. Parce qu'on a d'un côté une explosion de la demande, plus de gens en difficulté, plus de gens qui n'arrivent pas à trouver dans le parc privé des loyers correspondant à ce qu'ils attendent. Et d'un autre côté, les gens qui sont dans le logement social, qui, pour certains, n'arrivent plus à sortir. Et on a des phénomènes nouveaux. On a des personnes qui arrivent à la retraite chez nous. Parce que petite retraite, le parc privé, les loyers qui ont explosé, ils changent d'endroit et ils cherchent un loyer abordable. Donc, on a cette pression de la demande qui nous oblige à prioriser ce qui est toujours quelque chose de compliqué.
Oui, c'est compliqué. Vous notez, on note justement, on remarque dans l'enquête que vous avez publiée, une situation assez tendue dans le Tarn-et-Garonne et l'Ariège, où il y a justement beaucoup de demandes et peu de réponses, ou en tout cas un plus faible taux de réponse que dans les autres départements de
Et
notre région.
c'est le paradoxe qu'on dit souvent. Il y a quelques années, on disait il y a des zones tendues. Alors, quand on parlait des zones tendues, en Occitanie, c'était bien entendu Toulouse, c'était Montpellier.
Les grandes
Et
villes.
puis, on disait mais le reste, c'est des zones détendues. Détendues, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de demandes par rapport aux besoins. Or, ces dernières années, ce besoin, il a augmenté partout pour toutes les raisons que j'ai exprimées. Et un département comme l'Ariège, il y a des endroits qui sont beaucoup plus demandés. Mais on a aussi le phénomène, je le disais, des seniors qui ont
Voilà, c'est
besoin de
ça.
logement. Et aujourd'hui, entre le chez-soi où on habite et l'EHPAD, très souvent, il y a besoin d'un logement
Donc c'est la
intermédiaire
transition.
adapté, cette transition. Et puis, il y a beaucoup de gens qui bougent. Et par exemple, à Toulouse, il y a des seniors qui arrivent parce qu'il y a leurs enfants qui travaillent à Toulouse. Et ils veulent se rapprocher et ils n'ont pas forcément les moyens de s'acheter une maison avec 1000 mètres carrés autour.
Oui, c'est évident. Alors, on comprend bien que la situation actuelle est difficile. Alors, pardon, je voudrais d'abord vous demander sur le nombre de programmes de construction de logements sociaux dans la région. Il a quand même diminué de 10% en un an. Est-ce que vous pouvez nous en donner les raisons, Jean-Michel Fabre?
Oui, alors on est pris dans la crise globale de la production de logements qui s'est effondrée. Alors il y a des raisons pour le logement social qui viennent de loin, puisque depuis 7 ans, on a mis aux bailleurs sociaux une taxe qui s'appelle la réduction du loyer de
Oui,
solidarité, qui
la
est un
RLS.
prélèvement, la fameuse RLS, qui est un prélèvement sur les bailleurs sociaux. C'était 1,4 milliard au niveau national. Cette année, premier signe, elle baisse un petit peu. Donc ça, c'est quelque chose de très fort, de très
C'est
structurel.
encourageant pour vous, pour le logement social.
Oui, alors c'est un signe d'encouragement, on baisse cette taxe. Et puis après, il y a eu l'augmentation des coûts, il y a eu la crise Covid qui est passée par là, il y a eu les crises internationales, la crise de l'énergie, et donc la production de logements s'est effondrée. Je noterai d'ailleurs que en ce moment, on fait partie depuis 2 ans du secteur qui résiste le mieux. On continue à construire du logement social, je dirais on tient bon, même si c'est pas assez, et on sauve des entreprises aujourd'hui, parce que sinon le bâtiment serait quasiment à l'arrêt.
Alors vous avez parlé de cette réforme qui allège cette réduction du loyer de solidarité. Est-ce que vous voyez que dans les prochaines années, les 5-10 ans, la situation va s'améliorer pour le logement social en Occitanie?
Alors,
Vous l'espérez, j'imagine.
non seulement on l'espérait, mais on l'espère, mais
Quels sont les signes?
on fait tout pour ça, parce qu'il faut inciter tout le monde à se mobiliser. On le dit très souvent, mais on parle du logement social quand ça va très mal. De temps en temps, on a des communiqués pour expliquer le nombre de personnes à la rue. Mais il faut y travailler toute l'année et il faut y travailler sur tous les territoires. Donc ça suppose que l'État change sa vision des choses. On a eu quelques signes, mais c'est que une toute petite éclaircie dans la tempête qu'on traverse. Et puis, il faut que les élus locaux aussi soient mobilisés et que l'opinion publique comprenne que le logement social, c'est pas un problème, c'est une solution pour notre territoire.
Oui, c'est une solution pour notre territoire. La Haute-Garonne est le département de Midi-Pyrénées qui concentre le plus de programmes de construction d'habitats sociaux, avec 3 100 nouveaux logements. Qu'en est-il des autres départements de cette région?
Alors, on est dans une région qui, comme beaucoup de régions, a ralenti avec la crise, mais où c'est reparti un petit peu partout. Mais selon les départements, on va avoir des programmes et des différents. Il y a des départements où on construit beaucoup de maisons individuelles, de logements sociaux. Alors, on ne le sait pas, mais il y a des territoires ou des tout petits collectifs. Il y a beaucoup de territoires où on construit des résidences intergénérationnelles avec quelques logements seniors et puis des logements pour les familles. Et je le dis très souvent quand on me parle des zones détendues, je dis, moi, je peux aller voir n'importe quelle maire de Haute-Garonne, d'Ariège ou d'ailleurs, si je discute un peu avec lui. Peut-être certains me diront au départ, ah, mais non, le logement social, on n'en a pas trop. Et puis à la fin, ils me diront, ah, mais si c'était possible de nous faire 4 ou 5 logements seniors, ça serait super. Voilà, parce que c'est aussi ça, le logement senior. Et ce besoin-là, il est et il va être partout.
Et il va être partout, il va être grandissant. Alors, outre la construction de logements sociaux, il y a un réel effort pour rénover ce qui existe déjà. Vous l'avez un tout petit peu évoqué, pour éradiquer ces fameuses passoires thermiques. Dans quelle mesure il y a cette évolution ?
Alors déjà, premier point, le logement social est très, très en avance par rapport au logement privé. Quand on compare les chiffres, on a deux fois plus de logements en A et B, les meilleures classes, que dans le logement privé. Et on a deux fois moins de classes EFG que dans le logement privé. Ça vient du fait qu'on a quelqu'un qui décide, qui est unique, c'est le bailleur social. Dans les copropriétés, c'est très compliqué de lancer ces rénovations. Donc, on est lancé depuis de nombreuses années. Là aussi, la crise nous a un peu freinés, mais on essaye de reprendre cette réhabilitation, avec l'idée que là-dessus, ce sur quoi on travaille pour nous, c'est à la fois les dépenses de nos locataires. Quand on fait une bonne réhabilitation thermique, ça permet aux locataires d'économiser l'équivalent d'un mois de loyer en énergie. Donc, c'est pas négligeable. Mais on est aussi le premier acteur sur la bifurcation écologique et sur la limitation des émissions de gaz à effet de serre. Le logement, c'est le premier poste de production de gaz à effet de serre pour les ménages. Quand on joue là-dessus, on fait l'essentiel du travail. Donc, on cherche aussi à être le moteur pour l'Occitanie, pour la Haute-Garonne et pour tous les départements de la bifurcation écologique et de ceux qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Et ça passe par l'isolation ou ça passe par une reconstruction ou
Alors ça passe, ça va dépendre des situations, mais dans la plupart des cas, ça passe effectivement par des isolations. Aujourd'hui, on travaille beaucoup sur les isolations par l'extérieur, mais c'est aussi le changement des modes de chauffage, c'est aussi le changement des habitudes, c'est toute une transformation. Et on a par contre un problème particulier sur notre région. C'est qu'on parle beaucoup du chauffage pour l'hiver, des réductions du chauffage. On parle moins de l'adaptation au confort d'été.
Ah oui,
et on est dans un territoire où on a entre 2 et 4 périodes de canicule tous les étés. On sait qu'on a des efforts à faire. On est déjà engagé, peut-être plus que d'autres, mais ça sera un des défis des années à venir. Je le dis très souvent, il y a plus de morts l'été de canicule que l'hiver de froid. Donc, on a un enjeu supplémentaire aujourd'hui qu'on prend à bras le corps.
Oui. Pour terminer, Jean-Michel Fabre, qu'espérez-vous pour les prochaines années ? Vous avez dit qu'il y avait des choses positives, il y a des signaux qui sont encourageants. Qu'est-ce que vous espérez ?
Je pense que, de manière très simple, que le logement redevienne au cœur de toutes les politiques, parce qu'il est au cœur de la politique sociale, premier poste de dépenses des ménages, au cœur de la politique énergétique, premier poste d'émissions de gaz à effet de serre, et premier poste en termes d'aménagement du territoire. C'est un facteur majeur d'aménagement du territoire. Donc la question, c'est où doit-on construire demain les logements ? Peut-être qu'il faut en finir avec la concentration pour éviter les embouteillages et la pollution et construire partout des logements adaptés à tous les besoins.
Il y a peut-être une petite lueur d'espoir aussi avec cette proposition de loi qui a été adoptée par le Sénat le 18 mars dernier, qui permet de redonner un peu plus, davantage la main aux élus pour construire sur des territoires plus vastes.
Alors, je pense qu'il faut que les élus soient impliqués sur le logement, mais je pense aussi qu'on est là tous, autant qu'on est, pour permettre de répondre à la promesse républicaine. L'accès au logement dans notre République est un droit. Il y a le droit au logement. Et quel que soit l'élu, où qu'il soit, il faut qu'il permette de répondre à ce besoin. Et quand il regarde bien chaque maire, la population de sa commune, il verra que le logement social, ça peut permettre d'héberger les seniors, ça peut permettre à des jeunes de décohabiter, parce qu'aujourd'hui, ils ont du mal à partir de chez eux. Ça peut permettre de loger les femmes qui ont urgence. Donc, à chacun à s'en emparer. Et plus que les lois, je pense qu'il faut qu'on remette ce sujet au cœur du débat.
Voilà, remettons ce sujet au cœur du débat, le sujet du logement social. Merci beaucoup Jean-Michel Fabre, président de Habitat Social Occitanie. C'était votre grand entretien sur Radio Présence.